Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires. C'est l'émission de tous les mercredis de l'Union communiste libertaire. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir donc à toutes et à tous. C'est 20h et des poussières. Donc, c'est le début de l'émission Idées Noires de l'Union communiste libertaire. Pour enchaîner tout de suite, avant que mon camarade se mette devant le micro, je vais vous parler un petit peu de la Plume Noire, n'est-ce pas, que vous connaissez bien, librairie autogérée, donc par les militants et militantes de l'Union communiste libertaire, ouverte tous les mercredis de 17h30 à 19h30, et le samedi, en principe, de 15h à 19h. Je dis en principe parce que malheureusement, ce samedi, nous ne serons pas disponibles pour l'ouverture. On a des prérogatives, donc je ne vous en dirai pas plus là-dessus. Bon, enfin, toutes les semaines à venir, ça sera, j'espère, des ouvertures aux horaires que je vous ai indiqués à l'instant même. Oui. Eh ben voilà, j'ai tenu le coup jusqu'à... Qu'est-ce que tu vas nous annoncer? C'est quoi comme micro que tu as? Jaune?
Non, jamais le jaune, mais si, allez, vas-y. Bien sûr, on comprend très bien que la période politique est un peu troublée et on va être appelé à battre le pavé dans les jours qui arrivent. C'est inévitable. On aurait bien aimé se dispenser de commencer l'émission avec ce sujet. Bien évidemment, sujet d'actualité qui est celui de l'extrême droite qui frappe aux portes du pouvoir. C'est pas la première fois qu'elle nous fait le coup, mais ça nous avait toujours à moitié fait sourire cette agitation politique autour du danger de l'extrême droite, mais cette fois-ci, malheureusement, la probabilité elle est plus que forte et on connaît les conséquences que ça risque d'avoir pour les quartiers populaires, pour les minorités racisées de genre, de sexe, pour les milieux, pour la culture, pour l'éducation, pour les milieux alternatifs et militants. Et aujourd'hui, c'est de sombres nuages qui s'annoncent sur le printemps à venir. Et je crois qu'il est de l'urgence et il est du devoir de toutes et tous de tout faire pour éviter que d'ici quelques semaines, l'extrême droite se trouve au pouvoir en France, avec les funestes conséquences que cela peut avoir. Bien sûr, ça va se jouer dans les urnes, mais pas que. Ça va aussi se jouer par une mobilisation populaire dans la rue, afin de faire prendre conscience et afin de mobiliser un certain nombre de personnes face à ce danger bien réel qui est celui d'un fascisme rampant qui voudrait s'installer en France, mais au-delà de ça, en Europe, et une vague réactionnaire et peut-être nationaliste partout dans le monde. Il y a des rendez-vous qui sont prévus déjà pour dénoncer ce danger de la montée de l'extrême droite et de cette extrême droite qui frappe au pouvoir, où il va falloir être le plus nombreux possible dans la rue. Ces rendez-vous, c'est actuellement, là, ce soir. On n'a pas d'écho et d'informations précises, mais il y a eu des manifestations qui ont été organisées, qui défilent dans les rues de Lyon. Et puis, il y a deux grands rendez-vous populaires qui sont organisés. Vendredi soir, à l'appel de très nombreuses organisations politiques, syndicats, associations, un rassemblement à 18h30 place des Terreaux pour dire non à l'extrême droite, pour appeler à résister face au danger de la montée de l'extrême droite et de qui frappe à la porte du pouvoir. Donc ça, c'est vendredi soir, place des Terreaux à 18h30. Et puis ça a été décidé cet après-midi par l'ensemble des unions départementales du Rhône au plan syndical. Il y a une manifestation unitaire syndicale qui est appelée dimanche, comme dans de nombreuses autres villes de France. Dimanche, ça sera à 14h30, place Jean Masset, dans le 7e arrondissement, en direction de la place Lyautey. Manifestation syndicale unitaire. Unitaire est vraiment dans l'unité, puisqu'il y aura une banderole syndicale unitaire et que derrière, les organisations syndicales ne défileront pas à la queue leu leu l'une derrière les autres, mais tout le monde sera mélangé avec ses drapeaux, ses bannières, ses pancartes, ses mots d'ordre et ce qu'on a à dénoncer. Et on espère que cette manifestation de dimanche, à l'appel de l'intersyndicale du Rhône, elle sera massive et qu'elle montrera que le mouvement social, que le monde du travail dit non à l'extrême droite, parce qu'on sait très bien que le RN est une arnaque sociale, on sait très bien que le Rassemblement National, c'est un danger pour le monde du travail, pour les travailleuses et pour les travailleurs. Donc on vous espère nombreux et nombreuses dans la rue. On vous le redit, vendredi soir, 18h30, place des Terreaux, et puis dimanche, 14h30, place Jean Masset pour cette manifestation intersyndicale. Voilà, c'est avec cette émission, ces deux annonces qu'on voulait démarrer cette émission Idées Noires, cette émission de l'Union Communiste Libertaire. Daniel, tu l'as dit, on est ensemble comme tous les mercredis jusqu'à 21h. On va bien sûr faire le tour des luttes sociales et syndicales. On aura aussi un invité avec nous ce soir après la première pause musicale, notre camarade Pedro, avec qui on va parler lombricompostage, recyclage et écologie plus généralement. Mais avant d'aborder ces sujets dans cette émission, on va revenir quand même sur ce qu'on n'avait pas parié il y a une semaine sur les événements politiques de dimanche, le résultat des élections européennes, mais bien évidemment aussi l'appel, la décision de dissoudre l'Assemblée nationale du président de la République. Déjà, on se rend compte que partout en Europe, la droite conservatrice et l'extrême droite ont réalisé au cours de ces élections européennes des scores prévus par les instituts de sondage sur un fond d'une abstention quand même relativement massive, et que l'extrême droite, elle est désormais en position de force, notamment grâce aux scores qui ont été réalisés bien sûr en France, mais aussi en Allemagne, où elle en arrive même à devancer le Parti Socialiste, ce qui va peut-être lui permettre à la fois de s'allier ponctuellement avec le groupe conservateur du PPE, dont elle a déjà fortement orienté la politique très à droite, mais peut-être aussi d'être elle-même une force de blocage au sein de l'Europe. Les politiques européennes, incontestablement, elles vont être encore plus dures pour les classes populaires, encore plus dures pour les migrants et pour les migrantes, et que ce vote, c'est un vote pour les ennemis du monde du travail, mais c'est aussi un vote pour les amis du grand capital, mais c'est aussi un danger pour notre camp social. C'est la conséquence directe, quelque part, des politiques d'austérité budgétaire, de la destruction des services publics, de la remise en cause des droits sociaux et en particulier des protections sociales. Tandis que d'un autre côté, la bourgeoisie, elle a continué pendant ce temps à s'enrichir à l'infini, et tout ça grâce aux politiques de libéralisation qui ont été promues par l'Union européenne et qui ont bien évidemment indirectement contribué à nourrir la bête immonde. Alors, en France, puisque c'est là où l'actualité est la plus inquiétante et la plus brûlante, le score de Macron, qui peut apparaître comme un homme de paille du RN finalement, et sa défaite, c'est en fait le résultat de la violence institutionnelle contre le monde du travail. On le sait, hein, une violence institutionnelle contre le monde du travail qui est passée par la réforme des retraites, par la réforme de l'assurance chômage, par l'augmentation du reste à charge des frais de santé, de carence en cas d'arrêt de travail. Enfin, la liste elle est très longue des lois et des projets de lois ultra régressif et répressif qui frappe de plein fouet les travailleuses et les travailleurs, qui sont d'ailleurs avec ou sans papier. Et puis c'est aussi le résultat de nombreux discours sur l'immigration, justement, qui ont été portés directement par le gouvernement, de la lutte contre le terrorisme à la constitution d'un soi-disant ennemi de l'intérieur. On se rend bien compte qu'il y a eu une criminalisation réelle d'un certain nombre de personnes dans ce pays. En tout cas, en renforçant la bourgeoisie, Macron et son coalition gouvernement, ils ont indirectement largement favorisé le Rassemblement national. Le Rassemblement national qui est aujourd'hui donc le parti national le plus représenté déjà à Bruxelles, à Strasbourg, en attendant qu'il ne le soit pas demain à l'Assemblée nationale et qu'il ne prenne pas le gouvernement. En effet, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale où Macron, se voulant disruptif, a obéi en fait aux injonctions répétées du RN depuis des semaines, est un véritable danger pour les libertés individuelles, pour les libertés collectives, mais avant tout pour notre camp social et les classes populaires. Macron, il se présente comme un barrage, mais en fait, il ne l'est pas du tout. Cet homme-là, c'est un pyromane. C'est un pyromane qui joue avec le feu et qui risque malheureusement d'être absolument pas un barrage, mais bien au contraire, d'être un marchepied pour l'extrême droite. Parce qu'en effet, l'extrême droite, elle s'est nourrie de ce climat autoritaire, raciste et réactionnaire, autant quelque part que de la désespérance sociale qui est liée à la casse de nos droits, à la dégradation constante en fait de nos conditions de vie, de nos conditions de travail. Mais l'extrême droite, c'est pas une solution. On le sait, le fascisme a jamais c'est l'ennemi des travailleurs et des travailleuses. Si nous combattons sans relâche la bourgeoisie radicalisée qui est incarnée par Macron, nous mettons aussi en garde toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Il n'y a pas de solution dans le fascisme. On ne le dira jamais assez fort. Le vernis social de Le Pen, c'est un leurre. Que cela soit sur la question des retraites, par exemple, qui nous avait promis de revenir sur la réforme qui a été passée antisociale du gouvernement Macron et qui maintenant, aux portes du pouvoir pour séduire la droite libérale, commence à dire que finalement, peut-être que non, ils ne reviendront pas dessus, etc. C'est le véritable visage du Front National et du Rassemblement National aujourd'hui qui s'exprime très clairement. C'est le vernis social de Le Pen, que ça soit le père comme la fille et comme son pantin Bardella aujourd'hui, on le dit, ce n'est qu'un leurre au plan social, que ce soit donc sur les retraites ou sur les salaires. En fait, ce sont toujours les mêmes recettes libérales qui sont proposées, sans que cela dérange pour autant les intérêts des capitalistes. Alors le projet de société du RN, on le connaît, c'est un projet de société qui est raciste, c'est un projet de société qui est autoritaire, c'est un projet de société qui remet en cause les droits d'un grand nombre d'entre nous au nom d'une identité française qui est fantasmée et qui divise les classes populaires, qui divise notre classe, qui divise notre camp social pour le plus grand bénéfice encore une fois de nos exploiteurs et des classes dirigeantes et possédantes. Ce projet, on sait aussi qu'il est profondément violent, il est profondément antisyndical. Et il est au contraire de nos valeurs de solidarité, de nos valeurs d'égalité. Et c'est pour ça qu'on doit rejeter fermement et sans aucune hésitation le Rassemblement National et son projet politique. On sait qu'aujourd'hui, face à ce danger, notre avenir, il passera par les luttes, que face aux menaces sur ce qui sont aujourd'hui très lourdes pour nos droits et pour nos libertés, l'unité la plus large actuellement, elle est indispensable. Parce que pour nous, il s'agit de pas se laisser enfermer dans un quelconque front républicain ou de servir des alliances politiques de circonstances. Mais néanmoins, il y a urgence à faire barrage au Front National par tous les moyens. Le mouvement social et le mouvement syndical doivent prendre leur rôle là-dedans. Ils doivent pleinement assumer leur autonomie et proposer aussi une alternative. On le sait que c'est en montrant des mobilisations collective dans la rue, sur nos lieux de travail, par des grèves, par des manifestations, par des rassemblements avec des revendications claires et unifiantes, qu'on va pouvoir faire reculer le fascisme et le capitalisme. Cela passe par l'affirmation d'un projet aussi de transformation sociale qui est clair, qui est en rupture avec l'ordre politique et économique actuel, qui, on le sait, est au service de la barbarie capitaliste. Aujourd'hui, il y a urgence à mettre en place une riposte antifasciste de masse, parce que la victoire du camp de le bourgeois réactionnaire, c'est pas une fatalité, et que à travers les différents contre-pouvoirs dans lesquels on peut être investi, que ça soit les syndicats, les associations, les réseaux informels, on a les moyens de continuer à construire la solidarité qui s'est renforcée ces dernières années, notamment au cours des luttes comme par exemple lors de la mobilisation sur les retraites, et riposter à l'extrême droite, c'est aussi faire dérailler les contre-réformes néolibérales qui nous ont fragilisés ces derniers temps collectivement et individuellement. C'est gagner du pouvoir d'achat, c'est gagner de nouveaux droits sociaux, c'est stopper les projets écocides qui nécessitent une unité de notre camp social. Et au-delà, nous devons également mener un combat antifasciste large pour combattre l'extrême droite partout où elle se manifeste et renvoyer ses idées là où elle n'aurait jamais dû sortir, c'est-à-dire les poubelles de l'histoire, là où elles auraient bien dû rester. Alors, depuis notre création, notre organisation politique, l'Union communiste libertaire, s'est engagée dans une démarche unitaire et d'autonomie du mouvement social, qui a continué ce que faisait précédemment Alternative Libertaire et la coordination des groupes anarchistes. Et aujourd'hui, on le raffirme haut et fort, l'urgence c'est de faire barrage à l'extrême droite par tous les moyens possibles, d'empêcher qu'ils accèdent au pouvoir, mais c'est de faire que du lycée aux EHPAD, en passant par le monde du travail, et ben c'est tous ensemble, à la base, qu'on peut s'organiser, qu'on peut lutter, qu'on peut dénoncer ce danger, qu'on doit s'y opposer et qu'on doit essayer de gagner pour instaurer une nouvelle société. C'est le pari qu'on fait, parce que là, il y a vraiment urgence. L'extrême droite est aux portes du pouvoir et on en connaît les conséquences funestes que cela peut avoir, y compris sur la liberté d'expression. On espère pouvoir parler encore longtemps sur cette antenne de Radio Canut, et ça, c'est tout simplement, par exemple, un enjeu de ce qu'est la défense des libertés fondamentales et des libertés de liberté d'expression que, bien évidemment, l'extrême droite ne respectera pas. C'est pour ça que d'ici début juillet, il va falloir faire barrage à l'extrême droite. Ça commence dans la rue dès ce vendredi, on l'a dit. Ce vendredi, rassemblement unitaire à la peine de dizaines d'associations, organisations politiques, syndicats, 18h30, place des Terreaux à Lyon. Il faut que cette place des Terreaux explose et qu'elle déborde. Et puis dimanche, 14h30, place Jean Masset, à l'appel de l'intersyndicale du Rhône, une manifestation syndicale dans l'unité pour dénoncer l'extrême droite. Voilà, c'est avec ces mots qu'on ce premier sujet qu'on commence cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union communiste libertaire. On va faire une première pause musicale, malheureusement. Toujours à propos, et même encore plus que jamais. On va se replonger en 1989. En 1989, quand on était beau et qu'on était jeune et qu'on criait « La jeunesse emmerde le Front National », et ben aujourd'hui, on espère que la jeunesse, elle va continuer à crier qu'elle emmerde toujours et qu'elle emmène encore le Front National. Mais la vieillesse, elle emmerde aussi le Front National et on emmerde tous et toutes le Rassemblement National. Et on n'en veut pas au pouvoir. Et bien sûr, on ne veut pas de cette porcherie comme nous le chantent depuis si longtemps les Berruriers Noirs.
Forcer, 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 for manifesto.
Radio Canu 102.2. Sur le son des BRU encore une fois, qui nous chantait en 89, plus jamais de 20%, ben malheureusement aujourd'hui c'est plus de 30%. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'arrêter de chanter que la jeunesse comme la vieillesse et tout le monde emmerde le Rassemblement National. Vous êtes toujours sur 102.2, à l'écoute de l'émission Idées Noires, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, l'émission de l'Union Communiste Libertaire. On vous l'a dit en début d'émission, on accueille un invité, notre camarade Pedro, salut à toi.
Salut.
On avait prévu de ce thème et cette discussion avant les funestes événements de dimanche soir. Néanmoins, ils n'en perdent pas du tout de leur actualité, même si, en effet, la critique peut-être acerbe de l'écologie politique qu'on va faire ce soir ne remet pas du tout en cause le fait de devoir agir dans l'unité et tous ensemble face à la peste brune, qui est bien pire que les errements ou l'imposture écologique, parfois, de certains partis politiques. Mais voilà, c'est aussi être, c'est important aussi de pouvoir avoir une analyse critique des certaines politiques écologiques ou prétendues écologiques qui nous entourent. Déjà, Pedro, est-ce que tu peux nous présenter l'association dans laquelle tu interviens?
Oui, donc je fais partie de l'association Ezenia. On existe depuis une quinzaine d'années et on a comme thème fondateur, après on est allé sur plein d'autres choses, mais le compostage, le lombricompostage, la gestion des biodéchets et leur utilisation pour le sol, donc pour des enjeux de biodiversité, des enjeux de bilan carbone, des enjeux de tout ça. Donc techniquement, on a travaillé sur un type de technique, un type d'organisation, en ayant toujours l'intérêt premier, c'est effectivement de faire de l'écologie de la vraie, c'est-à-dire réfléchir en termes de baisse de transport, en termes de biodiversité, de retour au sol, d'agriculture paysanne et compagnie. En fait, c'est le fait de traiter des déchets et des biodéchets, ça nous permet d'avoir un pied dans le déchet, donc dans les gaspillages et tout ça, et puis effectivement un pied dans l'agriculture avec cette matière qu'on produit. Voilà. Et après, notre association, elle s'est beaucoup élargie, fait assez notable, enfin qui était assez volontaire dès le début, mais qui s'est vraiment avéré. En fait, on travaille énormément, enfin au moins 80% de ce qu'on fait, c'est plutôt à destination de public. Alors, je vais employer les termes officiels, public fragile, public défavorisé, mais bon, très clairement, voilà, on bosse en quartier populaire ou avec des structures d'insertion et autres. Et donc, c'est une vraie volonté qu'on a toujours eue de faire de l'écologie sociale. On va employer ce mot-là. À la fois pour parce que il y a 15 ans c'était moins évident, mais là ça l'est très clairement. L'écologie, c'est énormément de création d'emplois, c'est énormément d'argent brassé, et donc si on peut faire en sorte qu'une partie de cet argent il aille dans les bonnes poches, voilà, ça a toujours été un but, hein, de garder une partie de cet argent qui va être dédié à gérer nos déchets, à faire de l'agriculture, etc., à ce qu'il n'aille pas systématiquement dans les poches des multinationales ou des start-up. Donc ça, c'était vraiment un des buts de créer des boucles comme ça, et puis de manière après un peu plus générale dans notre façon de gérer notre association. On est vraiment dans tous ces thèmes là on essaye aussi de gérer notre association de manière horizontale, avec de l'égalité salariale, de l'égalité de traitement entre tous, des décisions communes. Donc voilà, on a toujours eu un petit pied qui tendait vers l'autogestion, et plus on avance, plus on y arrive. Voilà, donc c'est pour un peu faire un peu le cadre de tout ça, quoi.
Alors, beaucoup de choses qui nous parlent, bien sûr, cette dynamique autogestionnaire qu'on peut co-promouvoir. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui décidons. Cette question, bien sûr, aussi d'éducation populaire, qui est au centre de votre intervention. Ce que tu dis, en effet, qui est classé comme public défavorisé ou autre, et ben justement, c'est important que les classes populaires puissent s'approprier aussi un regard critique sur la société qui les entoure et sur la gestion des déchets, comme tu l'apportes. Et puis, cette question de l'écologie sociale, parce que comme on le dit souvent, l'écologie sans la lutte de classe, bah, c'est du jardinage ou du coloriage. Et que malheureusement, dans les résultats électoraux de ces week-ends, parmi les gens qui se sont tournés vers la bête immonde, il y a beaucoup de gens qui justement ne comprennent pas forcément le message écologique ou qui considèrent que c'est quelque chose pour les bobos et que fin du monde et fin du mois a du mal à être lié. Donc cette question de l'écologie sociale, bien évidemment, dont vous revendiquez, elle peut que faire écho aux problématiques qui sont aussi les nôtres. Du coup, au vu de votre expertise qui nous semblait intéressant et ce qui avait été, lorsqu'on s'était rencontrés, une des idées de vous inviter sur cette antenne de Radio Canu, c'était de mettre en quelque part en critique la politique qui a été menée par la mairie de Lyon, la majorité écologiste, sur la question des composteurs urbains qu'on a vu apparaître maintenant depuis la rentrée dernière. Quel regard vous portez-vous sur cette expérience qui peut paraître sympathique à première vue et flatter justement plein de gens qui ont une bonne conscience écologique, mais qui paraît quand même pourtant pleine de contradictions.
Ouais, effectivement, donc très vaste sujet. Alors, pour revenir à ce que tu disais depuis le départ, c'est vrai que c'est assez étrange de parler de ça maintenant, parce que ça semble presque un peu anodin vu ce qui nous pend au nez. Donc effectivement, le but n'est pas de taper sur des écolos qui restent antifascistes, plus ou moins.
tout en restant des libéraux pour autant.
Tout en restant, alors malheureusement, je vais essayer de le faire sans être trop technique, mais effectivement, dans ce que nous on propose depuis des années, mais alors pas que nous, hein, c'est des associations, des entreprises, des collectifs, des scientifiques, des sociologues et autres, un peu partout en France, c'est effectivement que la gestion des déchets, et particulièrement du biodéchet, qui est vraiment presque le seul déchet qu'on peut gérer 100% localement, c'est-à-dire sans transport ou avec très peu de transport. C'est un déchet qui se détruit par lui-même, enfin qui se détruit grâce à la faune, des bactéries, des champignons et autres. Donc on n'a pas besoin de le transporter. On peut pas faire des mini incinérateurs de quartier. Autant on peut effectivement traiter nos propres biodéchets à des échelles très 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 locales, et c'est faisable aussi bien. Alors c'est très facile sur les campagnes. Ça l'est un petit peu moins en périurbain. Et ça devient un peu tendu en plein centre. Il n'empêche que c'est jouable, c'est faisable, on le fait, c'est fait dans d'autres endroits, c'est porté par plein de collectifs. Voilà, et donc du coup, nous, on a toujours milité pour ça. Encore une fois, hein, je me répète, à la fois pour un côté technique, écologique, des questions de transport, des questions de biodiversité, mais aussi vraiment cette question d'appropriation, à la fois d'appropriation d'argent, parce que la gestion des déchets, c'est énormément d'argent. Donc, ce qu'on arrive à traiter localement, ça veut dire salarier des gens qui sortent de chez eux à la fourche à la main et vont entretenir des composteurs, c'est vraiment pas pareil que de payer une multinationale, en l'occurrence Suez à Lyon, mais ça pourrait être Veolia ou n'importe qui d'autre. Qui passent avec des camions complètement déshumanisés, avec du travail, du salariat un peu dégueulasse, hein. Soit t'es à l'arrière du camion, et puis quand on est derrière les camions à biodéchets, on sait qu'il y a une odeur qui est quand même pas mal. Soit tu travailles dans des espèces d'usines à déchets où tu tries les merdes de tes contemporains qui sont pas toujours géniales. Donc on a vraiment deux types de métiers complètement différents. Un d'ailleurs qui est quasi 100% masculin, et puis un autre qui est au contraire très très mixte, hein, la gestion des biodéchets sur place, le compostage, c'est des métiers extrêmement mixtes. Et donc nous, on a toujours milité sur ce traitement des biodéchets sur place, et on a prouvé que c'était faisable, et on est même inscrit dans des processus scientifiques pour évaluer la faisabilité, tant au niveau opérationnel, tant les impacts en gaz à effet de serre, etc., que l'organisation sociale qui va avec. Et en fait, les résultats sont assez unanimes. Ce qu'on fait, globalement, ça coûte moins cher, ça crée plus d'emplois, ça crée des emplois plus intéressants, ça émet moins de gaz à effet de serre, ça a un impact fort sur la biodiversité en ville, puisqu'en fait, nos trucs, c'est pas la peine de faire des hôtels à insectes géants qui servent à rien. Nous, on a de la réserve de nourriture et une faune incroyable qui s'y développe. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là qu'on travaille de manière très très sérieuse hein, depuis un certain nombre d'années, et on a réussi effectivement à créer un certain nombre d'emplois, et d'emplois vraiment locaux, hein, d'emplois pour les gens des quartiers. Et puis là-dessus, effectivement, débarque la victoire des Verts sur notre territoire, qui logiquement, en fait, vu tout ce qu'on porte, bah, globalement, si dans tant que ça reste du blabla et du discours, on est la même chose. J'ai l'impression de cocher absolument toutes les cases de ce que peut dire n'importe quelle personne qui va défendre l'écologie politique sur un plateau télé. Et dans les faits, là où on pensait qu'effectivement on allait se débarrasser de Colomb et du coup que ça pouvait être un des thèmes qui allait assez bien marcher, on se retrouve entre guillemets sacrifié au sacro-saint principe de réalité ou je sais pas quoi, qui fait que avant les déchets c'était Suez qui les gérait, les pauvres ils vont perdre de l'argent, donc on va leur filer aussi les biodéchets. Et puis une organisation du coup qui arrive en contradiction avec ce qu'on fait, mais en contradiction avec ce que font d'autres associations, et en contradiction avec ce que faisait la métropole elle-même depuis l'ère Colomb, puisque sous l'ère Colomb, on avait aussi des écolos au pouvoir et qui avaient commencé à créer des systèmes de compostage partagé, compostage sur place, un peu le même type qu'on défend, peut-être moins social, mais voilà. Et donc on a une espèce de double politique de la métropole qui se tire elle-même dans les pattes, qui dépense aussi de l'argent pour rien, et on va avoir dans certains quartiers des composteurs tout frais installés par la métropole qui ont coûté quand même relativement cher, et 20 mètres plus loin une borne à compost. Donc ce sont très clairement, là juste petit point technique, c'est pas des composteurs, hein, c'est juste des poubelles qui sont collectées 2 à 3 fois par semaine par un gros camion poubelle, donc avec une consommation d'énergie assez énorme, qui vont faire le tour de l'agglomération, aller déposer ces biodéchets, alors si possible plutôt chez les pauvres, hein, Vénissieux ou autres, aussi proche de Givors, où on travaille beaucoup, donc on a, comme ça c'est bien, les habitants de Givors, ils ont droit à ces odeurs de compostage industriel, et puis effectivement traiter de manière mécanique sur des sols bétonnés, enfin bref, des multiples impacts. Et nous, effectivement, on s'attendait à tout sauf à ça de la part de. Et donc on a protesté, rencontré, discuté, et avec une fin de non-recevoir assez hallucinante comme si ce qu'on faisait n'existait pas en fait, ou n'avait pas de sens, ou de toute façon c'est comme ça, on peut pas faire autrement, alors que c'est vraiment un truc physique de base qui existe, quoi, le compostage, et plus encore le lombricompostage comme on le pratique.
Alors dans ce que tu décris, tu dis en effet, il ne faut pas se leurrer, c'est ces composts qui sont été installés par la municipalité, c'est avant tout des poubelles à déchets organiques. Mm-hmm. Pourtant, il y a la prétention que ça va servir à faire de l'engrais agricole.
Oui.
C'est une réalité ou
Oui, c'est une réalité. Donc c'est effectivement, après un premier transport dans toute l'agglomération, c'est béné donc sur des plateformes industrielles. Donc c'est du traitement en grosse épreuve. Il y a plusieurs types de processus qui existent, certains qui sont assez permissifs sur la quantité de plastique qu'on peut avoir, et puis après c'est brassé, ça veut dire mécaniquement par des gros tracteurs, roues énormes, etc., et c'est brassé, retourné, donc avec une consommation énergétique assez dingue. Et puis bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement plein de pertes de matière, en fait, de la matière qui part sous forme de gaz ou sous forme de liquide qu'on peut pas récupérer, pour avoir au final des composts que nous on estime relativement inintéressants en agriculture, potentiellement plastifiés, même si on a aussi ces problématiques de plastique, hein, dans nos composteurs, mais le fait de les gérer sur des petites échelles, c'est beaucoup plus facile d'enlever des plastiques dans un petit composteur, et de faire ça dans une journée, de gérer 20 composteurs et puis d'enlever les petits plastiques qu'il y a sur 20 composteurs, que de gérer un truc qui a déjà été mélangé, brassé dans un camion poubelle, sans parler encore une fois de la qualité du travail, parce que vu mon métier, je suis extrêmement pas sensible aux odeurs, et je maîtrise à peu près tout, et pourtant pour rien au monde j'irais travailler dans ces usines à compost en termes juste de qualité de travail, quoi.
Et puis, comme tu dis, un compost dont on peut s'interroger sur la qualité, en effet, qu'il représente, notamment, en effet, le taux de plastique, mais aussi, ça a pu interpeller le fait de pouvoir y mettre de la viande, de pouvoir y mettre des plats cuisinés, de la nourriture cuite. C'est quelque chose qui peut aussi interpeller.
Alors, sur la qualité du compost, pas tant. C'est pas tant un problème que ça, c'est plutôt, du coup là on rentre dans autre chose qui est ce qui s'appelle la prévention, et là pour le coup c'est pareil, c'est prouvé scientifiquement par des études sociologiques, etc. Les gens font pas du tout la même chose quand ils ont accès à un composteur, avec certaines règles, hein. Des fois c'est chiant un composteur, on fait fonctionner de la biodiversité, et si on met trop la biodiversité, elle peut pas gérer. Et du coup, on a quand même un rapport où finalement, ce qu'on met dedans, on y fait un petit peu attention. Là, en tout cas, les gens le font. Et puis, surtout, encore une fois, il y a des gens qui travaillent au quotidien, un petit peu comme les postiers qui vont faire la tournée des popotes. Bon, voilà, en fait, les gens, ils sont dans la rue, ils peuvent discuter avec vous et vous encourager, principalement déjà, à moins jeter. Parce que le nerf de la guerre, en fait, c'est là, on fait du compostage industriel parce qu'on jette trop aussi. En fait, il y a dans le monde un tiers de ce qu'on produit qui n'arrive pas dans les assiettes. Et ça, c'est scandaleux. Et effectivement, par nos actions de compostage de proximité, on peut aussi vraiment jouer sur ça, sur la réduction en amont, c'est-à-dire arrêter de balancer tout ça, ça n'a aucun sens. Vous achetez 4 baguettes pour le prix de 3, finalement vous en balancez 2, ça n'a pas de sens. Et nous, on est capable de le dire au quotidien, dans notre travail, avec les gens qu'on rencontre, et on le sait, on a un vrai impact là-dessus. À l'inverse, bah, ces bornes un peu déshumanisées, j'ai 10 steaks hachés qui ont tourné parce que il y avait une promo Carrefour, rien à foutre, je les mets. Il y a vraiment c'est un autre problème, ces bornes-là n'encouragent pas du tout à réduire les quantités de ce qu'on jette, parce que c'est hors sol.
À une réflexion globale sur qu'est-ce qu'on produit, pourquoi et quel type de consommation on veut promouvoir dans notre société, quoi.
Exactement.
Du coup, vous avez une vision, et là tu nous l'exposes clairement, plus globale, et une réflexion plus globale. Donc, alors, quelle serait pour vous la solution qui permettrait à la fois la prise en compte de ces problématiques environnementales et de répondre à la question sociale en même temps?
Alors, de manière générale, c'est hyper compliqué c'est très, très complexe comme sujet, mais il n'empêche que quand même la relocalisation de toutes ces problématiques, concernant mon sujet, les déchets, et je parle même plus que des biodéchets, mais les déchets de manière générale, c'est évident que le fait de ne pas voir, de ne pas être conscient de ce qu'on produit, de ne pas être conscient de ce qu'on jette, c'est le nœud du problème. Donc effectivement, tant qu'on peut jeter, tant que la Chine, qui d'ailleurs n'accepte plus nos plastiques, mais d'autres pays les acceptent, en fait on balance tous nos surplus, parce que personne ne sait gérer les quantités de déchets qu'on produit dans notre monde capitaliste. Absolument personne n'est capable de le faire, c'est impossible physiquement, et donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on le balance chez les pauvres, qui se polluent eux-mêmes, qui finissent par nous repolluer, nous, puisque on retrouve ces déchets dans nos assiettes, par tout le circuit de la chaîne alimentaire. Donc voilà, concernant mon sujet, c'est évident qu'il faut relocaliser, ça va avec la relocalisation de l'agriculture, ça va avec créer des boucles, et effectivement être capable de gérer les déchets qu'on produit, pas les envoyer au fin fond du monde chez les pauvres. Ça c'est sur mon sujet. Après, bien entendu, de manière un peu plus générale, oui, c'est très clairement la surconsommation et donc le capitalisme qui est le nœud du problème. Donc c'est un peu cliché, ces histoires de dire d'arrêter de pisser dans la douche, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est vraiment la réduction. C'est pareil pour les énergies. Discuter sur qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire du gaz, du pétrole, de l'éolien ou du nucléaire, ça a pas de sens parce qu'on gaspille tellement d'énergie. Donc la vraie solution, effectivement, c'est d'aller sur une vraie réflexion sur ces gaspillages qui sont souvent l'apanage des classes les plus riches, les trajets en avion, la surconsommation, etc. Et là, après, on pourra discuter de la méthode d'énergie. Là, après, on pourra discuter de la méthode de gestion des déchets. Ça, c'est sur des trucs... Je me suis peut-être un peu éloigné de la problématique sociale, mais derrière, il y a effectivement toutes ces ces métiers qu'on peut créer et comment dire, là on voit que l'écologie elle a la main mise sur les startups, enfin, en fait il y a les gens qui veulent faire de l'écologie, ils vont faire des études pour ça et au final vont nous pondre des PowerPoint, des trucs comme ça, alors que nous en fait non, nous réellement ce qu'on fait c'est qu'on traite physiquement des déchets et ça demande de la main d'œuvre et ça peut être des métiers relativement valorisants, physiques. Et c'est ces métiers-là qui devraient prendre l'argent et pas les start-up, pas les cabinets de conseil qui prennent tout cet argent et qui n'en laissent pas beaucoup pour le travail physique. Hein.
Alors, quand on t'écoute quand même, et puis quand on observe un peu ce qui se passe autour de en effet, cette énorme économie de gestion des composteurs mis en place à Lyon, on a un peu la désagréable impression que c'est quelque part un bien public qui a été livré à des entreprises privées. Et qu'il y a une manne financière, encore une fois, qui pourrait servir à d'autres choses, qui pourrait être investie socialement de façon beaucoup plus utile que plutôt que faire, encore une fois, des profits pour de grandes entreprises.
Exactement. Ouais.
Et donc, ça nous amène à une critique qui est plus profonde et qu'on a abordée tout à l'heure, qui est celle de la critique d'une certaine écologie politique avec laquelle on est en opposition, et en l'occurrence de la tendance majoritaire, bien souvent chez les Verts, qui a une véritable conscience environnementale, mais qui ne s'accompagne pas d'une conscience sociale et qui, derrière, au contraire, laisse apparaître parfois une vision libérale en termes de liberté individuelle aussi, mais en termes de vision politique et économique, une vision libérale et qui ne prend pas en cause la question sociale et qui peut être problématique. On le voit sur cette question des composteurs. Il y a la question de la circulation automobile et du stationnement dans Lyon qui pourrait être aussi abordé. Alors récemment, la mairie de Lyon a tenté de corriger un petit peu les mesures drastiques, je dirais à caractère punitif, qu'ils avaient pris il y a maintenant un an ou deux, en essayant de re-échelonner les tarifs de stationnement en fonction du poids des véhicules, en fonction des familles nombreuses, et en fonction éventuellement des revenus des personnes. Mais néanmoins, il y a quand même une politique à un moment donné punitive qui a considéré que un certain nombre de voitures n'avaient plus le droit de circuler dans Lyon parce que trop vieilles et donc trop polluantes, alors que je ne sais pas, une vieille ZX des années 90 est pas forcément plus polluante qu'un SUV tout moderne qui consomme du 10 ou du 15 litres au 100, et sans se poser la question de qui roulait avec quel type de voiture et pour quel besoin. Est-ce vraiment cohérent d'interdire à une aide-soignante qui se lève à 5h du matin pour aller travailler à l'autre bout de l'agglomération et qui n'a pas la possibilité d'accéder à cette heure-ci au transport en commun, de lui interdire d'utiliser sa vieille voiture dont elle ne peut pas la changer parce qu'avec son petit salaire, elle n'en a pas les moyens, et permettre par contre à des gens qui ont de très hauts revenus d'avoir deux véhicules qui consomment énormément, qui peuvent être aussi polluants mais qui sont modernes et qui pompoient et qui pourront se peigner la bonne vignette. Il me semble que c'est quelque chose qui est complètement antisocial, qui au nom d'un principe, là encore, de posture écologique et de lutte contre le réchauffement climatique, est quelque chose de punitif qui va frapper les classes populaires, quoi. Qui va frapper les classes populaires et qui, malheureusement, explique aussi comment un certain nombre de personnes se trompent de colère et vont mettre des mauvais bulletins dans l'urne et vont nous amener dans l'impasse politique dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Et qu'en effet, l'écologie, elle doit servir à l'intérêt général et pas simplement profiter à la minorité de ceux qui ont les moyens de pouvoir tirer les bénéfices de l'écologie, quoi.
Ouais, complètement. Et puis sur cette histoire de voiture, enfin, à 100% d'accord avec ce que tu as dit, et encore plus dans le sens où, en fait, on peut même. C'est même pas tant la consommation des véhicules qui va être en jeu, mais simplement d'encourager systématiquement les gens à changer de voiture. Avec cette histoire de ZFE, effectivement, c'était plus facile de changer de SUV tous les deux ans que, comme tu dis, de garder sa vieille ZX. Et c'est vrai que c'est un truc qui me fait marrer. C'est en ça où, quand on parle d'écologie politique, on a peut-être aussi un cas différent sur Lyon, puisque moi j'avais vu une interview d'un élu vert en Bretagne qui prenait l'exact contraire, c'est-à-dire qui prenait la récupération des vieilles bagnoles, qui faisait tout un circuit d'économie circulaire assez génial avec des vieilles bagnoles qui allaient en soutien à des familles pauvres et tout ça, et c'était le même parti. Donc c'est peut-être aussi nos verts à Lyon qui ont un virage, puis peut-être encore plus à la métropole qu'à la mairie, qui ont un virage très très, qui prennent des décisions effectivement très très libérales, quoi.
Et qui sont décalées toute conscience sociale, et c'est ce qu'on peut que regretter malheureusement. Alors on n'est pas bien évidemment pour tout voiture et pour circuler à tout va et pour polluer à tout va pour autant, mais pour nous la position à l'UCL qu'on a toujours défendue, elle est simple. Oui, pourquoi pas limiter, encadrer le trafic routier en ville, mais dans ces cas-là, la solution elle est très simple, et ce qu'on s'est toujours battu, c'est la première des choses à faire avant de prendre des mesures coercitives, c'est de permettre les transports en commun gratuits pour toutes et pour tous. Et là, c'est la meilleure des réponses. On sait que les premières personnes qui prennent les transports en commun, c'est aussi les gens des classes populaires. Et donc, permettre à toutes et tous de pouvoir accéder aux transports en commun, eh ben, c'est la meilleure façon aussi d'accéder à une libre circulation dans l'espace urbain, sans discrimination et sans poser problème. Donc, voilà, la première des mesures sociales qui pourrait être avancée, ça serait celle-ci. Ça serait celle de la mise en place des transports en commun gratuits pour toutes et pour tous. Et ensuite, on pourrait en effet avoir une politique limitative des transports automobiles ou autres.
Ouais, carrément.
On te remercie, Pedro, pour cette intervention. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se sépare ?
Non, tu me prends de court là, de pas me diriger. non, mais je suis dans le. Non. Après, j'acquiesce à tout ce que tu as pu raconter au démarrage. Que je suis dans le gros flip. Et effectivement, nos camarades, une partie de nos salariés qui peuvent faire partie de ceux qui dégageraient plus facilement s'il y avait le RN. Gros flip, et ça change un peu nos rapports à ce qu'on fait en ce moment, et ça nous fait encore plus l'envie d'aller faire ce qu'on fait dans les quartiers. Aujourd'hui là je débarque, j'ai juste eu le temps de me changer, mais je suis allé faire ma journée à Givors, où à la fois on était sur d'autres sujets, on réparait des encombrants et avec une solidarité folle entre les gens, et dans des quartiers effectivement très racisés en fait, nous au quotidien, notre quotidien il est génial, et le fait d'aller parler écologie dans des quartiers populaires, on est très bien accepté par tout le monde, et on nie pas les problèmes, on nie pas la violence qui peut avoir, et pourtant nous on arrive avec un truc assez positif, et c'est génial, et ce qui se passe est fou, et on a peur de personne là-bas, et on peut traîner dans ces quartiers-là. En fait, on n'a aucune peur, aucune crainte, aucun ressenti, et l'écologie, elle passe là-bas, bien sûr, à condition qu'elle ne soit pas, effectivement, moralisatrice, débile, déconnectée. Donc voilà.
C'est ce qui s'appelle la convergence des luttes. Ce qui se fait à la convergence des luttes et l'écologie sociale qu'on défend, en effet, une écologie sociale qui, sur le fond, on l'a toujours dit, ne peut qu'être aussi anticapitaliste au final. On te remercie encore une fois. On va faire une deuxième pause musicale dans cette émission Idées Noires. Non, Daniel, tant pis, on enchaîne sur les luttes sociales.
Je pense, oui, ouais, si je veux en faire quelques-unes, oui.
Allez, bah alors ça dépend si ça a beaucoup grévé et beaucoup lutté ces derniers temps. Bah,
tu sais bien que ça grève tout le temps, partout, dans tous les secteurs, enfin, je sais plus où donner de la tête.
Eh bah, priorité à l'information, en fait. Priorité à l'information sociale, donc
oui.
On t'écoute, Daniel, pour
ça. Oui, j'en faire quelques pages, comme ça je continuerai la semaine prochaine, parce que je serai encore à ce micro la semaine prochaine, évidemment. Donc on va finir par le mois de mai, parce que j'avais pas tout dit du mois de mai, enfin j'ai même pas tout dit d'ailleurs du mois de mai, en ce qui concerne les luttes sociales. On va commencer avec Enedis, Enedis et Énergie, c'est la contraction de Énergie Distribution, si je me souviens bien, c'est le gestionnaire du réseau EDF, donc dans la région, dans le département du Var, et c'est même très précis parce que c'était à l'est du Var. Alors c'était le 27 mai, avec une grève et blocage de chantier avec la CGT Mines et Énergie, et une partie donc des travailleurs et travailleuses mobilisés depuis 2 mois, et rejoint aussi par des collègues et non moins camarades de 8 bases opérationnelles du Var. Alors lutte de... c'est le pouvoir d'achat, évidemment, toujours en question, qui déclare que la prime de participation est en baisse, qui déclare aussi qu'il n'y a pas d'évolution salariale, et qui dénonce une externalisation des services, et puis aussi un effectif faible. Donc 120 chantiers étaient quand même impactés, ça concerne des raccordements d'immeubles en construction, par l'électricité, bien entendu. Donc, pour la direction, il y a le dialogue social qui est en cours, selon donc cette direction. Salomine, c'est dans le Pas-de-Calais. C'était une grève qui a démarré le 27 mai, qui était encore présente au 30 mai. Donc, 4 jours de lutte chez le carrossier Liberty du Risotti pour une majorité des salariés, des ouvriers, puisque la proposition de la direction d'augmenter, c'est 0 euro pour cette année. Alors c'est clair, c'est net, c'est torché, et aussi il dénonce un risque d'être racheté, du moins l'entreprise, et en même temps, ce qui va avec, c'est un gel des salaires qui était de mise. Les grévistes se sont installés devant les portes des ateliers et mis en place une assemblée générale. Ils ont organisé plutôt une assemblée générale pour une augmentation qui en est sortie à 150 euros net pour tous et toutes, votée par 70 personnes, et au passage aussi, pourquoi pas, revendication d'une prime. Alors, du Risotti a été racheté par Liberty House en 2018-2019 pour 100 fois rien. Ça fait partie du groupe GFG Alliance, un conglomérat sidérurgique dont Liberty House Group fait partie. Ce groupe a été signalé comme étant assez opaque, voire nébuleux. À Firminy, donc dans la Loire, 27 mai, chez Coveris Flexible France, on est dans la plasturgie, avec un conflit, avec Maestro, donc à la baguette, juste à la baguette Maestro, CGT et FO. Alors la cause ici du courroux, c'est un transfert de machines et de salariés vers un autre lieu de travail, c'est-à-dire un autre site de production à Montfaucon en Velay. La direction s'embarre royalement les paupières des conditions de transfert pour les ouvriers. Des débrayages ont été organisés, donc des débrayages d'une heure, mais par contre 5 ouvriers se sont mis carrément en grève devant l'usine. L'effectif sur les 3 sites, c'est quand même 300 personnes. 46 salariés sont concernés par ce fameux transfert, et la grève donc a démarré le 21 mai contre ce projet, donc qui serait pour janvier 2025, donc faut pas rester les deux pieds dans le même sabot. Alors s'il y a refus évidemment de partir à Montfaucon, c'est un licenciement sec. Il est exigé par les grévistes la sauvegarde des emplois, l'abandon du projet, le reclassement sur Firminy et arrêt des 4 licenciements en cours. Il y avait donc des grèves sur les sites. À Verberie, c'est dans l'Oise, et c'était le 27 mai chez Poquelin Hydraulique. À une époque on y fabriquait des grues, mais maintenant on y fabrique des moteurs hydrauliques apparemment, et des composants aussi pour ces moteurs, donc salariés en grève bien entendu, ça c'est pour les salaires, c'est les négociations annuelles obligatoires qui sont en perte de vitesse, 2300 employés alors que la société fait de bons résultats, réalise de bons résultats. 3 jours plus tard, c'était la fin du conflit pour une gagne à 1,8% selon l'intersyndicale, et donc c'est la reprise du travail qui se remettait donc en place. Et puis on va démarrer ça, c'était pour le mois de mai, je vais faire juste un petit démarrage sur le mois de juin, je ferai la suite la semaine prochaine avec Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône bien entendu, 4 juin, c'est au magasin l'enseigne épicière Carrefour, grand Vitrolles qui était bouclé pour grève selon les syndicats CGT, CFDT et de l'UNSA. Les salariés étaient postés devant les portes pour une prime exceptionnelle, c'est-à-dire le versement en l'absence de participation que d'autres magasins en location gérance, parce qu'il y a beaucoup de magasins maintenant Carrefour, de l'enseigne Carrefour qui passent en location gérance, on en avait beaucoup parlé déjà, et qui versent donc à leurs employés du groupe, le groupe Label Vie, Label comme qualité, Label Vie, assez variable, donc des primes assez variables, puisque ça va de 150 euros à 1800 euros, et 0 euros donc pour les camarades de Vitrolles. La grève a cessé à 17h30 sans rien obtenir. Alors ce n'est qu'une partie remise évidemment. La direction reste inflexible sur la revendication de 1500 euros demandés. Il y avait quand même à signaler 200 salariés grévistes sur 350 personnes de l'effectif. Et puis pour finir cette première page donc, cette dernière page avec Port-Jérôme sur Seine, c'est en Seine-Maritime, le 4 juin, une suite à un mouvement social de la mi-avril chez ExxonMobil par 677 salariés de la branche chimie avec la CGT. Alors la cause ici, c'est la fermeture d'une activité, l'arrêt complet donc sur le site, 100% de grévistes car les négociations sur les indemnités de licenciement sont au ralenti. La direction propose des primes au rabais, à savoir 18 mois de salaire avec 5 ans de présence, et le minima pour la CGT, en fait le minima est de 36 000 euros d'indemnité de départ. Alors, quelles que soient donc les circonstances ou les conditions d'âge, toutes les unités étaient impactées par cette grève à cette date. Ça continuait dans le 5 juin. Les négociateurs patronaux sont très durs en affaires, selon la CGT, et des grévistes, les grévistes, eux, sont déterminés. Par contre, la nouvelle est tombée le 11 avril par, selon le syndicat, des spécialistes de la destruction d'emplois, ce qui ne leur pose donc aucun problème. Juste un petit coup d'œil sur le chiffre d'affaires quand même de ExxonMobil, c'est affolant. En 2022, je dirais même que ça fout le tournis, près de 414 milliards de dollars. Et le résultat net, je vais vous le dire aussi, pendant que j'y suis, à 56 milliards de dollars. Voilà.
Ça se passe de commentaires. Comme quoi, Daniel, des brèves sociales, il y en avait, en effet, tu avais raison. Rendez-vous est pris la semaine prochaine.
C'est qu'une pincée.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Je dirais une poignée.
C'est avec ça qu'on termine cette émission Idées Noires, l'émission de l'Union Communiste Libertaire, comme tous les mercredis soirs de 20h à 21h, sur 102.2 de Radio Canu. On termine quand même en vous rappelant les deux rendez-vous importants de la fin de la semaine. On espère que vous serez nombreuses et nombreux à venir battre le pavé, à venir dénoncer le danger qui s'annonce et les tristes nuages qui flottent sur nos têtes contre l'extrême droite au pouvoir. Résistance, vendredi soir, appel unitaire, un rassemblement par des dizaines d'associations, organisation politique, syndicat, 18h30, place des Terreaux à Lyon, donc premier arrondissement. Et puis dimanche après-midi, appel de l'intersyndicale du Rhône pour rappeler que le Rassemblement National sera toujours l'ennemi des travailleuses et des travailleurs. Manifestation au départ de la place Jean Masset dans le 7e arrondissement, en direction de la place Lyotet à 14h30. Manifestation unitaire, tous ensemble, unis contre le fascisme. Il y a eu urgence, faire par tous les moyens possibles barrage au Front National, au Rassemblement National pour pas qu'il arrive au pouvoir. Voilà, c'est avec ces mots qu'on termine cette émission Idées Noires. Idées Noires, c'est la semaine prochaine à 20h sur 102.2 de Radio Canu. Et moi, je vous retrouve juste après notre générique pour la bande-son de nos révoltes.
Bonne émission. Et puis, moi, je vous dis à mercredi prochain, donc, pour la suite et la continuité des luttes. On n'a pas fini, les gars.
Nuvens oscuras, nos impiden ver, aunque nos espera el dolor.